Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, ne faites plus de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu donner là pour justifier ce que tu fais ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous et il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Nous sommes dans les évangiles du temps du carême, dans une marche qui nous mène vers la fête de Pâques, la célébration de la résurrection de Jésus et aussi la rénovation des promesses de notre baptême. Et après avoir entendu, lors du premier dimanche, l'évangile très bref de Marc sur la tentation de Jésus au désert, après avoir entendu dimanche dernier l'évangile de la transfiguration, donc le premier nous parlait du combat spirituel, le second nous parle effectivement du terme qui est la transfiguration de tout notre être, y compris par la résurrection. Aujourd'hui, le troisième évangile est un épisode où nous voyons Jésus qui purifie le temple de Jérusalem, mais en même temps qui parle de lui-même comme du vrai temple. Cet épisode est situé par saint Jean au début du ministère public de Jésus, alors que par les 3 autres évangélistes, Marc, Matthieu et Luc, il est situé à la fin, juste avant la Passion. Peu importe, il semble d'ailleurs que ce soit Jean qui ait raison. Jésus a posé là un acte grave, évidemment, et prophétique en même temps. Enfin, il faut quand même savoir qu'à Jérusalem, au temple, à l'époque, lorsque c'était la fête de la Pâque, il passait probablement au temple plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc imaginez ce que ça pouvait représenter en infrastructure de support, en commerce. On critique, n'est-ce pas, la ville de Lourdes, mais imaginez ce que ça pouvait représenter en matière de sacrifices aussi, d'animaux, etc. Et comme la monnaie du temple n'était pas la monnaie civile qui avait l'effigie de l'empereur, mais une monnaie particulière, si l'on voulait offrir un sacrifice au temple, il fallait donc changer sa monnaie et acheter ce qu'il fallait, alors que le marché des animaux servant pour le sacrifice, normalement, on aurait dû se trouver un peu plus loin. Cependant, par la force des choses et par pratique, il s'était rapproché du temple et se trouvait dans les parvis. Enfin bref, c'était certainement quelque chose d'un peu curieux à observer et qui ne favorisait pas forcément l'intériorité de la prière. Alors Jésus va avoir ce geste qui en lui-même est un geste clair, en disant « Enlevez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Jésus dit « La maison de mon Père » et il parle du temple donc comme étant le sien, comme étant aussi le lieu de la présence de son Père, donc de la présence de la Trinité. Et c'est une phrase lourde de conséquences évidemment et de compréhension sur son identité. Mais voyez que saint Jean insiste aussi sur le fait que Jésus a véritablement été très ferme dans son geste. Il a pris des fouets avec des cordes, il s'est fait un fouet, il les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs, jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir. Bref, on a là de quoi faire une scène hollywoodienne absolument spectaculaire dans un film, on s'en est pas privé d'ailleurs, dans tous les films sur Jésus. Est-ce que Jésus a voulu simplement signifier que le temple manquait d'intériorité et de dignité par rapport au culte de Dieu? De même qu'on pourrait se dire, nous aussi, lorsque nous venons à l'Eucharistie le dimanche, dans une église, nous devons à la fois vivre la tension que peut représenter le fait qu'une communauté se rassemble et donc elle ait besoin de se dire bonjour, de se saluer, de s'embrasser, et puis en même temps de favoriser un climat d'intériorité qui nous permet de nous préparer à entrer dans la célébration de ce grand mystère de l'Eucharistie. Les deux sont difficiles à faire en même temps, mais cependant nous devons essayer d'y veiller, c'est important. Mais est-ce que Jésus a voulu simplement signifier cela, que le culte de Dieu doit être digne et intérieur? Non, beaucoup plus encore. Beaucoup plus encore. Mais les disciples n'ont pas vu autre chose. Sur le moment, ils se sont rappelés, alors ça c'est aussi très juif, ils ont épuisé dans l'Ancien Testament un verset, l'amour de ta maison fera mon tourment. L'amour de ta maison fera mon tourment. Voilà. Ils perçoivent que Jésus est soucieux et désireux que la maison de Dieu soit digne et sainte. Mais enfin, on va critiquer Jésus, on va lui dire de quel droit, pour qui te prends-tu, pourquoi tu fais ça, quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? Et Jésus va avoir alors cette parole étonnante, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Parole incompréhensible évidemment pour ses auditeurs, et ils n'ont pas compris, ils ont compris ça au premier degré, et ils ont dit comment, il a fallu 46 ans pour bâtir le temple, hein, imaginez, depuis 46 ans, le temple d'Hérode était en restauration, et suite au second exil à Babylone, où il avait été détruit, eh bien, il a fallu 46 ans, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Ils ont pris ça au premier degré, ce qui nous fait comprendre que lorsque nous lisons l'Écriture, il y a certes un premier niveau, mais il faut aller chercher des niveaux, non, il faut aller comme ça, plus profond. Voilà. Il faut descendre en profondeur pour comprendre qu'est-ce que Jésus a voulu dire. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Et saint Jean écrit, le temple dont il parlait, c'était son corps. Le temple dont il parlait, c'était son corps. Mais évidemment, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ont compris cela après la résurrection, quand ils ont pu constater que Jésus, crucifié, était ressuscité et portait sur lui les stigmates de sa crucifixion, dans les poignets et au niveau des pieds et sur son côté, les blessures de sa crucifixion, de sa mort sur la croix. Jésus les portait dans son corps glorieux, c'était donc le même Jésus avec le même corps mais glorifié, ressuscité. Et Jésus parlait donc de son corps. Le temple dont il parlait, c'était son corps. Jésus est présence de Dieu, Jésus est temple de Dieu. Puis en même temps, ce qu'il nous est dit, c'est que nous-mêmes aussi, parce que nous sommes baptisés dans le Christ, nous sommes temple de Dieu, nous sommes présence de Dieu. Et que l'Église, ce n'est pas un bâtiment de pierre, l'Église, c'est une assemblée de pierres vivantes. Le mot « Église » en hébreu signifie « assemblée ». Et saint Pierre, dans ses lettres, dira « Vous êtes des pierres vivantes ». Et donc, on doit s'ajuster les uns aux autres et construire ensemble une communauté vivante qui soit le temple de Dieu au cœur de ce monde, le lieu où Dieu réside, dans nos cœurs et au milieu de nous, au milieu de notre joie fraternelle, de notre communauté chrétienne. Jésus ressuscité est présent. Ça en dit long sur la dignité du chrétien, sur la dignité aussi de tout être humain. Et tous les combats pour les droits de l'homme, tous les combats pour le respect de la vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle sont des combats importants à mener pour témoigner de cette dignité de l'homme. J'ai été heureux jeudi dernier de pouvoir écouter la conférence du docteur Mirabel aux saunières sur l'euthanasie, parce que nous avons, nous, en tant que chrétiens, des choses à dire sur la dignité de l'être humain, surtout à l'époque où nous avons vraiment mis en place un peu partout les soins palliatifs, et je peux en témoigner en circulant dans les établissements de santé de la Sarthe, de constater qu'un peu partout, il y a des unités de soins palliatifs ou des équipes volantes de soins palliatifs. Eh bien, le docteur Mirabel disait d'ailleurs qu'aux Pays-Bas, où l'euthanasie a été légalisée, la première chose que l'euthanasie a tuée, c'est les soins palliatifs. C'est intéressant à constater. Je ferme cette petite parenthèse, mais en tant que chrétien, nous avons vraiment à témoigner de la dignité de l'être humain, de la conception jusqu'à la mort naturelle, et de la dignité aussi de notre corps, qui est temple de Dieu. Et nous devons déceler les péchés contre la dignité du corps aujourd'hui. Chaque fois que le corps est vendu, chaque fois que le corps est commercialisé, chaque fois qu'il est tenu pour rien, qu'il est vraiment méprisé, c'est Jésus qui est une nouvelle fois méprisé et crucifié. Cet évangile nous est donné sur notre chemin qui nous mène à Pâques pour que nous soyons conscients de la grâce que nous recevons dans le sacrement de l'Eucharistie, déjà de notre résurrection future. Nous nourrissons en nous, lorsque nous venons communier, notre prochaine résurrection, qui est, comme je le disais déjà dimanche dernier, le sacrement de notre régénération. Alors que le baptême est le premier sacrement que nous recevons pour être régénérés, la transfiguration de Jésus est le signe de notre régénération par la résurrection. Nous attendons notre résurrection, nous nourrissons notre résurrection. C'est tout un sens, c'est tout un sens de notre vie chrétienne, ça. Nourrir en nous la prochaine résurrection qui sera la nôtre, par la communion eucharistique, et veiller à ce que notre vie soit vraiment dans cet axe, et qu'il n'y ait pas en nous de mépris de la matière, de mépris des choses concrètes, de mépris du réel, de mépris du corps. Tout cela est bon et doit être restauré, revisité par l'Esprit de Dieu, ressuscité, transfiguré. Et Jésus le redit ici, à travers cet épisode. Les gens sont évidemment étonnés par tout ce que dit Jésus, tout ce que fait Jésus. Beaucoup crurent en lui à la vue des signes qu'il accomplissait. Et Jésus sait très bien que croire sur les signes, c'est friable. C'est tout à fait friable. Donc, Saint Jean écrit, Jésus n'avait pas confiance en eux. C'est un peu dur, ça. Hein? Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. La foi, c'est autre chose que de rester baba devant des signes que nous verrions. La foi, c'est une décision volontaire et personnelle d'adhérer à Jésus, d'adhérer à sa parole et de croire que sa parole est vraie. En effet, les disciples qui avait été puisé dans l'Écriture une première parole, « L'amour de ta maison fera mon tourment », les disciples ont compris que non seulement cette parole était vraie, mais encore toutes les paroles que Jésus disait étaient vraies, car ce que Jésus avait dit, il a fallu 46 ans, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », cette parole que Jésus avait dite, elle est vraie, elle s'est réalisée, et donc tout ce que Jésus dit, même si ça nous semble hors de compréhension, c'est vrai, et ça s'accomplira. Et la vérité de la parole de Dieu, ça, c'est pas rien. Et donc, nous sommes vraiment appelés à adhérer à la vérité de cette parole comme étant notre guide et notre lumière. C'est aussi tout le sens de notre carême, approfondir l'Écriture. Est-ce que vous lisez la Bible pendant le temps du carême un peu plus que d'habitude ? C'est vraiment le moment de le faire pendant ces 40 jours.